Et il est 14h10 à Paris, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques présenté par Pauline Glaise. Bonjour Pauline.
Bonjour Chantal, bonjour à tous et bienvenue. Donald Trump prononcera ce soir devant le Congrès son discours sur l'état de l'Union. Le président déclinera sa vision d'États-Unis sûr, fort et fier. Il s'adressera aux élus et aux Américains alors qu'il est particulièrement impopulaire après un an de mandat. Mais il peut compter sur la fidélité de sa base électorale. Reportage dans une mine de charbon dès le début de ce journal. Le président colombien gèle les pourparlers de paix avec l'ELN après une série d'attaques attribuées à la guérilla. Ces tensions pourraient bien profiter aux candidats conservateurs lors des prochaines élections. Dans notre revue de presse, Harim Lipold se penchera sur la bataille politico-juridique autour du jugement de l'ancien président Lula. Hier, ses avocats ont annoncé que de nouvelles preuves de son innocence seraient présentées devant les Nations Unies. Sweet Mickey, le groupe de l'ancien président haïtien Michel Martelly, évincé du carnaval de Jacmel qui se tient ce week-end. Alors pourquoi? Godson Pierre d'Alter Press nous l'expliquera dans quelques minutes. C'est un rendez-vous qui sera scruté aux États-Unis et dans le reste du monde. Le président américain doit prononcer aujourd'hui son discours de l'état de l'Union devant le Congrès. Un discours dans un contexte difficile pour Donald Trump. Sa cote de popularité est la plus basse jamais enregistrée par un président américain au bout d'une année d'exercice. Mais sa base électorale, elle, lui reste fidèle. C'est notamment le cas des employés des mines de charbon. Ils lui sont reconnaissants d'avoir aboli la loi Obama sur la qualité de l'air. Notre correspondante, Anne Corpé, est allé à leur rencontre en Virginie occidentale, au cœur du massif des Appalaches.
C'est une petite mine familiale percée à flanc de montagne dans le comté McDowell, l'un des plus pauvres des États-Unis. Les bureaux sont installés dans un préfabriqué juste devant l'entrée du tunnel. À l'intérieur, quelques mineurs se reposent avant de retourner dans les entrailles de la terre. Tous ont voté pour Donald Trump. Dans l'industrie du charbon, les affaires vont un peu mieux depuis son élection.
I'm Robbie Ward. Je m'appelle Robbie Ward et j'ai commencé à travailler à la mine à l'âge de 14 ans. C'est ce que j'ai toujours fait. C'était dur sous l'administration Obama et j'ai pensé que j'allais devoir arrêter. Si Clinton avait été élu, là j'aurais perdu mon boulot. Mais Trump, lui, il a changé le cours des choses. Quand il a été élu, les affaires ont repris. Et là, on est sur la bonne voie. On verra ce que ça donne l'année prochaine. Mais pour l'instant, oui, ça va dans la bonne direction. Tout ça grâce à Trump. Cela n'aurait pas repris ici s'il n'avait pas été élu.
Bill Adams est l'un des propriétaires de la mine. Il attribue le léger rebond du secteur à la politique de déréglementation initiée par la Maison-Blanche.
Ce qui a tué l'industrie du charbon, c'est toute la réglementation. Les procédures pour obtenir les permis, tout cela était long, très cher et plus personne ne voulait se lancer. C'est le plus gros problème, la réglementation. Mais Trump a changé cela. Maintenant, chaque fois qu'ils installent une nouvelle norme, ils en suppriment deux et les emplois ont commencé à revenir ici. On le voit avec là les camions qui reviennent.
Donc on rentre dans la mine à bord de ce chariot très plat, électrique.
Vous voyez ce sas, c'est le gouvernement fédéral qui nous a obligés à l'installer. Ça nous a coûté 60 000 dollars.
On ouvre de portes, on passe, on ferme les portes, on rouvre les suivantes et on les referme. La mine compte 7 galeries, toutes articulées autour d'un couloir principal par lequel est évacué le charbon.
Tous les gars qui travaillent ici ont grandi ensemble.
38 mineurs sont employés ici. Alan et Doug ont les visages noircis par le charbon. Comme tous ici, ils ont voté Donald Trump.
Trump est notre homme. Sans Trump, on n'aurait pas le charbon. J'aurais probablement perdu mon emploi sans lui. Je pense qu'il a apporté un grand changement. Ici, on l'appelle vieux papa Trump.
Trump a changé de politique pour qu'on puisse produire plus de charbon. Ce ne sera jamais comme c'était il y a 40 ou 50 ans. Mais il y a quand même un petit avenir pour le charbon. Cette région dépend du charbon parce qu'il n'y a pas d'autre industrie. Dans le coin, tous les gens qui travaillent et gagnent de l'argent ici sont employés par l'industrie minière ou en dépendent indirectement.
Le métier de mineur est éprouvant, il peut être dangereux et comporte des risques pour la santé. Mais les mineurs sont bien payés, ils peuvent gagner plus de 100 000 dollars par an s'ils travaillent 6 jours sur 7, ce que font beaucoup d'entre eux.
Et revoilà la lumière du jour, au bout de la galerie.
Chaque jour, 400 tonnes de charbon de très bonne qualité sont extraites de cette mine. Mais les ressources finiront par s'épuiser. Dans le bureau de la mine, tout le monde en est conscient. Daniel travaille dans l'électronique, c'est un sous-traitant de cette petite mine.
N'importe quelle industrie qui viendrait ici soutenir l'économie et créer des emplois serait la bienvenue. Mais il faudrait des infrastructures pour cela. Et ça pose problème ici, il faudrait bouger les montagnes pour construire des routes.
Dans son discours de l'État de l'Union, Donald Trump devrait annoncer son grand plan sur les infrastructures. Les mineurs espèrent des investissements dans le comté McDowell. Anne Corpet, dans le sud de la Virginie occidentale, RFI.
Du discours sur l'état de l'Union, on en parle aussi dans la presse avec vous, Achim Lipold, bonjour.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Alors que peut-on attendre de ce discours d'emparer les médias ?
Eh bien justement, c'est la grande question. Que va dire le président et surtout, comment va-t-il le dire ? Car son comportement sera aussi, si ce n'est plus important que les mots qu'il prononcera, écrit Politico. Selon le site d'information, il y a plusieurs inconnus, entre autres, le président suivra-t-il son script ? À noter selon Politico que Donald Trump a souvent été félicité lorsqu'il est resté fidèle au prompteur. Autre interrogation, le président précisera-t-il ses politiques en direction des immigrants et par rapport à la réforme de la santé, fort d'une économie qui tourne à plein régime. Donald Trump pourrait tendre la main aux démocrates, estime Politico, car il est confronté à un électorat divisé. Une bonne partie des Américains sont tellement dégoûtés par sa présidence, selon Politico, qu'ils ont du mal à reconnaître ne serait-ce que quelques-uns des succès de cette administration.
Et ce discours sur l'état de l'Union, le premier de Donald Trump, est un événement très médiatisé. Du coup, le New York Times s'est penché sur la relation entre le président et les médias.
Et sous la présidence Trump, les reporters sont en demande d'informations et en même temps la cible d'attaque, écrit le journal. D'après Steve Bannon, l'ancien conseiller en chef à la Maison-Blanche, interrogé par le New York Times, c'est la première présidence McLuhanesque. Alors McLuhanesque, ça veut dire quoi ? Eh bien, en fait, Bannon fait allusion au théoricien de la communication, c'est un Canadien, Marshall McLuhan, qui a développé l'idée selon laquelle le média est le message, le media is the message, la réalité devient moins importante que sa représentation, le monde numérique est plus réel que le monde physique, explique Steve Bannon, ajoutant que Donald Trump aurait parfaitement compris cette donne.
Et autre sujet qui fait la une de la presse nord-américaine, Arim, la démission du directeur adjoint du FBI.
Et selon CNN, Andrew McCabe est devenu la bête noire du président Trump qui lui reproche sa proximité avec les démocrates et son rôle dans l'enquête sur une éventuelle influence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Alors que le président ne souhaitait pas commenter la démission surprise du numéro 2 de la police fédérale, les démocrates, eux, craignent une purge au sein du FBI qui pousserait vers la sortie des proches de l'ancien directeur James Comey, c'est-à-dire sur le site Politico.
Arim Lipold, restez en studio avec nous. La suite de la revue de presse dans quelques minutes. Mais avant, on fait un détour par la Colombie. Les négociations pour la paix ne reprendront pas dans les jours qui viennent comme prévu. Le président colombien gèle la 5e session des pourparlers avec le LN. Juan Manuel Santos a fait cette annonce après une série d'attaques contre la police ce week-end. Cet échec du processus de paix intervient alors que le pays votera au printemps. L'instabilité pourrait profiter aux candidats du camp conservateur et en particulier au camp de l'ancien président Álvaro Uribe. C'est ce qu'explique Sophie Davio, elle est chercheuse à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence.
Il est probable que ça profite aux candidats Uribis. 3 ou 4 candidats qui, suite à ces attentats pendant le week-end dans le nord du pays, ont réclamé immédiatement des réponses très fortes et une rupture des dialogues de paix de la part du gouvernement. Bien sûr, on a surtout entendu les candidats uribistes. Ce sont eux qui risquent de profiter de ce climat de polarisation, de ce climat de plus grand scepticisme dans la population colombienne à l'égard des solutions négociées avec les guérillas. Ils sont déjà assez bien positionnés pour certains d'entre eux dans les sondages. Les candidats pour l'instant de gauche ou centre-gauche ont davantage de difficultés. Je pense aussi au candidat qui a été le chef de l'équipe de négociation avec les FARC, qui était un candidat qu'une frange disons du centre-gauche, des universitaires, etc., aimerait voir avancer dans les sondages. Mais pour l'instant, il a beaucoup de mal à décoller.
Sophie Davio répondait à Anastasia Becchio. À Rémy-Lippold, pour la suite de votre revue de presse, vous nous emmenez au Brésil où la bataille politico-juridique autour du jugement de l'ancien président Lula a repris de plus belle.
Oui, hier soir, les sympathisants de Lula ont organisé une manifestation à Sao Paulo durant laquelle ils ont dénoncé à nouveau la condamnation de l'ancien métallo à 12 ans et un mois de prison, c'est-à-dire dans le journal O Globo. De nouvelles preuves de son innocence seront présentées devant les Nations Unies, a annoncé l'un de ses avocats à cette occasion. En attendant, la présidente de la Cour suprême s'est également exprimée sur le jugement, Carmen Lucía a mis en garde contre un recours devant son institution, un recours qui abaisserait, selon elle, le prestige de la Cour. Pour l'instant, elle refuse d'inscrire la question sur l'emprisonnement de Lula à l'ordre du jour de la prochaine séance. Le journal canadien Le Devoir, de son côté, s'interroge sur l'avenir de Lula et du Parti des travailleurs en cette année électorale. Sous la présidence de Lula, le PT a mené une lutte titanesque contre la pauvreté et les inégalités que la gauche voit en lui un sauveur et compréhensible, écrit le quotidien québécois, avant d'ajouter que cependant, elle n'est encore pour seul figure de rédemption que ce vieux routier de 72 ans a quand même quelque chose de désolant. C'est le signe de problème de renouvellement, écrit le journal canadien.
Et on termine à Rime avec le Canada où le Premier ministre Justin Trudeau a lancé un appel pour combattre l'islamophobie.
Pourquoi le mot islamophobie nous met mal à l'aise? Parce que quand on parle de racisme, c'est l'autre. Mais d'avoir peur, ben, nous avons tous peur des fois.
Oui, le Premier ministre s'exprimait lors d'une cérémonie de commémoration à l'occasion du premier anniversaire de l'attentat contre la mosquée de Québec, la ville de Québec. Attentat qui a fait six mois, c'est à la une du journal Le Devoir.
Merci à Rémy-Lippold pour votre revue de presse.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et comme tous les mardis, on a rendez-vous avec Godson Pierre, fondateur d'Alter Press. Bonjour.
Bonjour.
À la une aujourd'hui, le groupe Sweet Mickey du chanteur et ancien président Michel Martelly, il n'est pas le bienvenu au carnaval de Jacmel.
La mairie de Jacmel a en effet décidé d'interdire Sweet Mickey dans le défilé du célèbre carnaval local. Dans un communiqué émis hier soir, le leader du groupe, Michel Martelly, est réputé pour la grivoiserie exacerbée de ses chansons carnavalesques et pour ses propos obscènes, violents et haineux lors de ses interventions publiques, ses spectacles et au carnaval. Le maire Marquis Kessa et ses deux assesseurs fondent leur décision sur le fait que la période carnavalesque ne doit pas constituer un moment de débauche, de violence, de vengeance, d'incitation à la débauche, encore moins d'infraction aux bonnes mœurs. Le carnaval de Jacmel constitue un patrimoine et peut intéresser toutes les catégories sociales, considère encore la municipalité qui, avant de prendre sa décision, a consulté divers secteurs de la commune de Jacmel ainsi que l'association des maires du Sud-Est.
Et Marie-Ange Noël, coordinatrice de l'association féministe Femmes Décidées de Jacmel, salue cette mesure.
Cette organisation ainsi que plusieurs autres avaient pris position publiquement contre la participation de Sweet Mickey au carnaval. Un mouvement anti-Sweet Mickey a pris corps également au Gonaïves dans le Nord et a abouti la semaine dernière à l'exclusion du groupe de Martelly au carnaval de cette ville. Des festivités carnavalesques se déroulent dans plusieurs villes et en particulier à Jacmel le week-end prochain, une semaine avant la tenue du carnaval de Port-au-Prince prévu du 11 au 13 février.
Godson, dans le reste de l'actualité haïtienne, le rapport sur la dilapidation des fonds pétro-caribés qui revient sur le devant de la scène.
En prévision d'une séance aujourd'hui au Sénat sur le rapport d'enquête sur le programme Pétro-Caribé, une plainte a été formellement déposée hier contre toutes les personnes supposément impliquées dans le détournement des fonds y relatifs. Cette plainte demanderait à la justice de sévir contre les dilapidateurs des fonds Pétro-Caribé, précise l'un des initiateurs de la démarche, le docteur Schiller Louis d'Or, également membre du directoire du parti politique Fonds Lavalas. La séance annoncée au Sénat, où le parti au pouvoir détient la majorité, pourrait viser à enterrer le rapport sur ce financement vénézuélien de plus de 3 milliards de dollars. C'est ce que craint Louis d'Or, d'où la démarche d'introduire une action en justice. Le document a épinglé plus d'une quinzaine de personnalités, dont deux anciens premiers ministres, plusieurs anciens ministres, directeurs généraux et des fonctionnaires au sein du pouvoir en place.
Et on vous parlait hier de leur succès face au Canada. Les footballeuses haïtiennes de moins de 20 ans arrivent aujourd'hui à Port-au-Prince.
Victoire historique, 1-0 lors de ce match de classement pour la troisième place déroulée à Trinidad et qui donne à Haïti son ticket pour la Coupe du monde de football féminin des moins de 20 ans qui aura lieu l'été prochain en France. Trinidad était le pays hôte de la dernière phase de la compétition régionale U20 féminine de la Confédération de football des pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, la CONCACAF. C'est la toute première fois qu'une équipe féminine caribéenne se qualifie pour la Coupe du monde de football féminin dans la catégorie des moins de 20 ans.
Merci Godson Pierre. À mardi prochain sur RFI. On reste dans les Caraïbes. Tout de suite, l'actualité des Outre-mer avec la première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Pauline.
Le phénomène revient régulièrement, Benoît. Les côtes de la Martinique sont une nouvelle fois envahies par les algues sargasses.
Oui, les côtes est en l'occurrence, celles qui regardent l'océan Atlantique. Et comme à chaque fois, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de vider le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire enlever tous les jours ce que la mer ramène tous les jours. Reportage Jean-Baptiste Anatole.
Les sargasses sont de retour depuis le mois de décembre dernier. C'est nouveau, elles apparaissent d'habitude entre juin et septembre. Un nouveau casse-tête pour les communes concernées. Exemple, du Robert, Pontalery, le bourg de la commune, Pointe-Fort ou Pointe-Savane, croule sous les sargasses depuis plusieurs semaines. Serge Massénaud, le monsieur sargasse de la municipalité du Robert.
En moyenne, par jour, il faut compter 100 tonnes sur chaque site qu'on enlève. Donc, c'est récurrent. Là, nous, on a fait appel à une société privée avec une pelle Lombra qui est plus adaptée. Donc, pour les évacuer.
Environ 15 000 euros pour 5 jours répartis entre la préfecture et la commune pour la location du matériel. Les sargasses évacuées sont stockées sur un ancien terrain de football. Les habitants des rivages, les commerçants, les chefs d'entreprise sont affectés. Les maux de tête, les vomissements, les irritations oculaires sont également de retour, sans oublier les insomnies. Le Robert, le Diamant, le François et les autres communes concernées vont traverser des moments difficiles.
Moment difficile également en ce qui concerne l'insécurité dans les établissements scolaires en Guyane. Les 5 collèges de Saint-Laurent-du-Maroni sont d'ailleurs en grève à partir d'aujourd'hui et pour une durée encore indéterminée. Les personnels dénoncent donc bien sûr ces problèmes de violence dans et aux abords des établissements. Pour le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, il faut mobiliser tout le monde autour de la sécurité des élèves. Il l'a dit après une rencontre avec le recteur d'académie. Rodolphe Alexandre au micro de la première Guyane.
Nous avons échangé sur tous les points, en particulier sur la sécurité. Comment trouver un dispositif à l'extérieur des bâtiments scolaires. Donc ça demande une étude relativement solide sur le parking, l'éclairage, la visio, les choses comme celle-là, le gardiennage. Et l'intérêt sera peut-être que l'on prévoit à court terme une réunion avec tous les acteurs concernés, les maires, le préfet, la gendarmerie, de façon à ce que véritablement on mette un frein à la montée de la délinquance devant les bâtiments scolaires. Il n'est pas admissible que l'on rentre dans un bâtiment scolaire pour agresser un enseignant, fût-il un parent d'élève. Et il n'est pas non plus normal que devant nos bâtiments, des bagarres se multiplient.
Bon après-midi Pauline, à demain.
À demain, Benoît Ferrand. Le journal d'Haïti et des Amériques touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jonathan Brady qui était aux manettes. Et puis, n'oubliez pas, vous nous retrouvez sur la page Facebook du journal d'Haïti et des Amériques. Dans une minute, le retour de l'actualité internationale.
L'Institut français vous invite à participer à une vaste consultation citoyenne pour exprimer vos propositions en faveur du français et du plurilinguisme dans le monde. Vous avez jusqu'au 20 mars pour déposer votre idée en ligne sur le site monidéepourlefrançais.fr. en partenariat avec France Média Monde.
On nous a menti, mon pote,
RFI,
dit manquer, on
la
aimerait,
sélection
n'est pas
du
le
mois.
Vrai, n'est pas le même, n'est pas celui qui donne le choix.
Team
l'amour
de...
est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi, si tu m'aimes. Pas je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi.
Danae Suarez et Stéphane Marley.